Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Le Togo s'active à la mise en place des institutions de la 5e République. Le Sénat, l'un des organes qui déclenche l'installation des institutions, rentre dans sa phase la plus importante. Ainsi, le premier Sénat dans l'histoire du Togo dispose désormais d'un bureau dirigeant. Barry Moussa Barké a été élu président de l'institution ce mercredi 2 avril par ses pairs, ceci lors des travaux de reprise de la session de droit au palais des congrès de Lomé. Que vous inspire cette actualité et qu'est-ce que les Togolais doivent espérer alors de ce Sénat qui est mis en place? Nous parlerons alors du sujet avec Soklingbé Senou, député, troisième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale et aussi député de la CDAO. Monsieur le député, bonjour.
Bonjour Monsieur Pascal, je salue toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM et tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir, c'est moi qui vous remercie.
D'accord, le plaisir est bien sûr partagé. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité de notre pays et pourquoi pas aussi du continent africain. Et nous pourrons également aborder des sujets liés au monde entier. C'est dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 3 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, nous sommes à Baga près de Niamtougou, et puis Radio Courtoisie et à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, et c'est avec nos confrères journalistes et aussi invités dans ce studio avec moi, je vous l'annonçais, l'invité bien sûr, c'est le député Soklingbé Senou, qui est député troisième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale et aussi député de la CDAO. Je serai en compagnie alors de mes confrères journalistes, et Michel Yao Tzadza, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM.
Michel, j'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous attendons certainement d'autres confrères qui vont nous rejoindre incessamment. Alors, monsieur le député, concrètement, quand on parle alors de député de la CDAO, comment on fait pour être député de la CDAO?
Je vous remercie une fois encore et je salue le travail que Canal FM est en train de faire en couvrant tout le territoire national, en permettant à nos compatriotes, à nos populations d'écouter, d'être sensibilisés, d'être informés et d'être au parfum de l'actualité de notre pays et d'ailleurs. Pour être député de la CDAO, pour revenir à votre préoccupation, il suffisait d'être élu d'abord dans son pays, être élu député au Togo d'abord, et avant d'être député à la CDAO. C'est-à-dire chaque pays de la communauté dispose un certain nombre de représentativité au sein de l'espace communautaire. Au Togo, le Togo a 5 représentations. Le Nigeria, qui est le plus grand pays de notre espace, dispose de 5 représentations. C'est aussi un partage. Donc, pour être député, de manière concrète, quand vous êtes élu, l'Assemblée nationale procède à une partition d'abord en tenant compte des sensibilités et c'est une conciliation qui se fait d'abord au niveau des bureaux et après cette conciliation arrêtée au sein des sensibilités et de concertation avec le bureau est présentée à la séance plénière. Donc c'est la séance plénière maintenant qui décide, qui ratifie. Les députés devront siéger à cette instance communautaire et notifier cela. Et les députés vont dans cette assemblée et prêtent serment et deviennent députés de la communauté.
Alors, ce que nous comprenons, c'est qu'on ne peut pas être député de la sans être député dans son propre pays.
Non, pour l'instant, non. Parce que c'est une réforme qui a été opérée en 2001, le Parlement a été créé en 2001, mais l'acte additionnel a été modifié en 2016. Donc, il faut être préalablement député titulaire d'un mandat dans votre pays d'abord. Donc, avant de pouvoir de prétendre accéder à ça. Et c'est une disposition transitoire. Mais le défi, c'est avec le temps d'aller à une élection au suffrage universel direct communautaire, comme cela se fait à l'Union européenne et dans d'autres parlements.
D'accord. Et souvent, quelle action qui vous est dévolue?
Le député du Parlement de la CEDEAO examine les différents textes que la commission peut soumettre d'abord aux deux organes délibérants, que le Conseil des ministres et la conférence de l'État et de gouvernement. Donc, tous les actes, qu'ils soient une directive, un acte additionnel, une décision, que tous les actes qui doivent passer à la conférence et au Conseil des ministres, ces actes sont préalablement soumis à l'examen du Parlement communautaire. Et aussi, d'autres prérogatives, le Parlement de la communauté examine le budget de la communauté. C'est-à-dire toutes les institutions de la communauté CEDEAO élaborent à son niveau leurs différents budgets. Et ces différents budgets sont compilés au niveau de la commission et sont soumis à l'examen du Parlement d'abord avant d'aller au Conseil des ministres et à la conférence pour être finalement adopté. Vous comprenez que à ce stade, le Parlement de la CEDEAO n'a pas véritablement les attributs du Parlement classique, c'est-à-dire n'a pas de manière complète les attributs d'organes légiférants.
Monsieur Sokangbe, c'est vrai que déjà, revenons un peu dans notre pays, le Togo, on sait que le mardi dernier, il y a eu la première session ordinaire de l'année 2025, et déjà à l'Assemblée nationale, vous êtes député, bien sûr, UNIR. Alors, et pour ce qui concerne alors cette session, il y a le journal Ouara Les Vainqueurs qui titre, bien sûr, sur le sujet « Première session ordinaire de l'année 2025 sous le signe de l'unité nationale ». Concrètement, quand le journal écrit que cette session est placée sous le signe de l'unité nationale, qu'est-ce que vous comprenez?
Oui, je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, que je profite de vos antennes pour dire encore toutes mes admirations. Le président, dans son adresse, a bien situé le contexte. Actuellement, là où nous sommes, nous avons besoin d'être unis, d'être solidaires pour pouvoir avancer. Donc, je crois que le journal a très bien compris le message du président de l'Assemblée nationale. Parce que nous sommes en train d'expérimenter ce nouveau régime qui a été mis en place et dont nous sommes dans la phase indispensable au basculement définitif et total. Donc, les populations togolaises doivent être unies, focalisées sur l'esprit, le développement, le dialogue, l'écoute, la solidarité, la résilience. Donc, autant de valeurs que nous devons mettre en avant pour pouvoir bâtir et construire notre pays ensemble. Parce que c'est ensemble que nous devons aller. C'est de manière, c'est en étant dans l'Union que nous pouvons bâtir ce pays et développer ce pays.
Oui, c'est vrai que dans le discours du président de l'Assemblée nationale, nous l'avons tous ensemble suivi, et on a compris quand même qu'il y a une solennité hein, par rapport à ce discours concernant le fait que déjà nous, l'Assemblée nationale aura un grand rôle à jouer dans cette 5e République. Alors concrètement, c'est quoi le rôle alors de l'Assemblée nationale dans cette nouvelle République qui se profile à l'horizon?
À la suite des résultats des élections législatives du 29 avril 2024, l'Assemblée nationale a procédé à l'adoption de son règlement intérieur sous la bannière de la 5e République. Et les textes, de façon pragmatique, il y a une nouvelle méthode de travail qui s'est invitée ou bien qui s'est imposée avec cette nouvelle législature. Et l'Assemblée nationale étant désormais l'organe qui est élu, duquel émanera désormais le président du Conseil, c'est-à-dire l'exécutif, a un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre des programmes, dans la mise en œuvre des politiques, dans le développement de notre pays. C'est en cela que il y a eu dans notre nouvelle méthode de travail, une collaboration franche et sans complexe entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il y a une nouvelle façon de travailler, de communiquer, de dialoguer afin d'aboutir à des textes qui prennent en compte les réalités effectives et qui donnent également l'occasion aux députés, bref, ce sont des projets de loi, mais les députés travaillent vraiment d'arrache-pied parce que désormais, il ne s'agit plus d'une élection présidentielle, mais l'exécutif émanera désormais de l'Assemblée nationale. À côté de cela, la Constitution dispose dans son article 16 que l'Assemblée nationale contrôle seule l'action du gouvernement. Vous comprenez avec moi que le rôle de l'Assemblée nationale est un rôle déterminant dans l'avancement de notre pays. Et en dehors de ces aspects que nous venons de souligner, l'Assemblée nationale sera également ensemble avec le Sénat pour procéder à l'élection du président de la République. Donc, de façon résumée, vous comprenez avec moi que l'Assemblée nationale reste le cœur palpitant de cette réforme constitutionnelle.
D'accord, l'Assemblée nationale reste le cœur hein, palpitant justement de cette réforme constitutionnelle. Et le journal Le Dialogue apporte de l'eau à votre moulin en disant, en écrivant hein, ce matin, installation des institutions de la 5e République, une priorité pour l'Assemblée nationale. C'est bien ça, monsieur le député?
À cet instant où nous sommes en train de basculer définitivement dans l'achèvement de la mise en place des institutions, l'Assemblée nationale a comme priorité la mise en place de ces institutions, c'est-à-dire la toute prochaine fois recevoir la désignation du président du Conseil et procédera à l'élection du président de la République.
D'accord. Michel, une question pour le député Soklembe.
Oui, c'est vrai que l'Assemblée nationale est au cœur d'où avec la mise en place définitive hein, de 5e République. Je voulais savoir, de par le passé, ça a été toujours dit que l'Assemblée nationale doit être, en tout cas, les députés doivent être plus proches de leur population, doit contrôler l'action gouvernementale, puisque l'Assemblée nationale a deux rôles fondamentaux, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais dans l'Union, on a toujours vu un Parlement qui est toujours en amitié avec le gouvernement. Et maintenant, avec la nouvelle donne, est-ce que il y a disposition pour que vraiment les parlementaires puissent vraiment interpeller, hein, interpeller vraiment les ministres qui ne seraient pas à la hauteur de leur tâche?
Oui, monsieur le député.
Oui, je vais donner deux exemples qui ont été manifestés déjà dans cette nouvelle assemblée. Quand l'Assemblée nationale a été installée, les députés avaient, lors de leur premier vacances, lors de leur première intersession, entrepris une tournée dans toutes les communes du pays. Et lors de ces rassemblements, chaque préfecture constitue une délégation qui est composée de l'ensemble des députés de la préfecture. Et qu'est-ce qui se fait? Il y a des directeurs régionaux, des directeurs centraux, les directeurs qui sont détachés dans les chefs-lieux des préfectures, et les maires, les conseillers municipaux, les syndicats, les représentants des artisans, toutes les couches sociales, où nous les recevons et nous leur demandons d'expliquer un peu comment est-ce que les services décentralisés, déconcentrés fonctionnent et les difficultés que les usagers rencontrent. Et les gens parlent, ils exposent clairement les problèmes dans les milieux. Et à la fin de cette tournée, nous nous sommes réunis dans nos états-majors où nous avons fait une synthèse de toutes les doléances, de toutes les préoccupations recensées, préfecture par préfecture et région par région. Et après, nous avons eu une séance de travail avec le gouvernement, séance présidée par le président de l'Assemblée nationale et la chef de gouvernement, où quand nous prenons une région, nous parcourons toutes les préfectures, nous touchons du doigt les problèmes des populations, leurs besoins, leurs doléances, et la première ministre interpellait directement les ministres sectoriels sur des questions précises et donner en même temps des instructions et des orientations. Donc, c'est un élément qui témoigne que cette nouvelle forme de gouvernance et de contrôle de l'Assemblée nationale n'est plus celle que nous avons connue sous la législature passée ou bien dans le temps passé. L'autre chose également, l'autre exemple que je voudrais donner, c'est ce qui est arrivé à Aguezongo, l'écroulement de la parcelle, de la parcelle qui avait causé des morts. L'Assemblée nationale avait interpellé le gouvernement en inscrivant cette question en question d'actualité, où les ministres en charge des infrastructures et de la sécurité étaient au Parlement, où on leur adressait, nous leur avons adressé des questions qu'ils ont répondu et des discussions ont eu lieu et il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et si vous constatez après cette discussion, vous allez remarquer que les barres de protection, par exemple, qui n'étaient pas posées à l'entrée ou bien à quelques mètres de certaines passerelles, ces barres sont actuellement posées. Et il y avait aussi des passerelles devant lesquelles l'Assemblée nationale avait demandé à ce que des mesures sécuritaires soient prises davantage. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a même des déodanes qui ont été faits à l'entrée de certaines passerelles.
D'accord. Nous sommes rejoints par le confrère et l'homme Matisse Obé. Et l'homme, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, Dieu merci.
D'accord. Vous avez une question pour le député?
Non, pas encore. J'ai pas de question pour l'instant.
Oui, je peux embrayer avec une seconde question. De tout temps, on a demandé à la population de remonter leurs besoin. Ça s'est fait pendant de longues années, mais les populations sont survivues qu'à chaque fois, c'est les mêmes doléances qui sont encore reconduites. Ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé, ou disons, ils n'ont pas trouvé satisfaction. Est-ce qu'avec la nouvelle République, l'Assemblée nationale qui est au cœur de tout, c'est vous qui l'avez dit, hein, est-ce que désormais, vous aurez, en tout cas, vous allez créer des mécanismes adéquats pour accélérer la satisfaction des populations là-bas? C'est très important.
Monsieur le député.
Oui, je pense que si nous disons de façon brute qu'il n'y a pas eu de satisfaction, peut-être, il me semble que nous n'avons pas pu cerner. Ce que nous voulons remarquer, nous voulons faire observer, c'est que c'est vrai. Il y a eu des satisfactions, parce que les populations elles-mêmes, elles ont soulevé des besoins qu'il y avait et qu'au moment où nous entretenions avec eux, avec elles, certains de ces besoins ont été satisfaits. Mais les besoins subsistent encore. Donc, ce document que nous avons présenté au gouvernement, c'est pour nous un document de travail. Il va y avoir encore d'autres tournées. Et lors des rencontres ou bien lors des interpellations, nous pouvons directement, sur certains points donnés, lorsque les problèmes ne sont pas réglés, poser directement des questions au ministre pour voir sur tel point que nous avons abordé, voici ces préoccupations-là demeurent, qu'est-ce qui a été fait, ou bien des programmes que le gouvernement avait présentés lors de cette rencontre, et ou bien des projets qui sont mis en place ou bien lancés dans certaines communes, dans certaines préfectures, qui n'ont pas connu d'évolution, ce serait également pour nous l'occasion ou bien l'opportunité d'interpeller et de savoir qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui a fait bloquer, pourquoi tel projet ou tel projet n'avance pas.
Alors, monsieur le député, nous allons nous intéresser au Sénat. C'est vrai, ce Sénat qui est mis en place, et hier, nous avons assisté à l'élection des membres alors du bureau du Sénat. Et désormais, c'est Barry Moussa Barké qui va diriger le Sénat pour les 6 années, bien sûr, hein, de mandat, bien sûr, de sénateurs. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ou quelle est... la signification, justement, allons-nous dire, alors de cet acte-là qui a été posé hier, c'est-à-dire l'installation du bureau du Sénat.
Oui. Dans la mise en place des institutions de la Ve République, le Sénat reste un point ou bien un organe sans lequel ces institutions ne connaîtront pas leur installation définitive. Donc, c'est un point cardinal du cheminement qui va conduire à l'installation définitive, à la mise en place définitive de ces institutions. Donc, ce qui a été fait hier, l'installation du Sénat hier, donne un coup d'envoi au dernier kilomètre ou bien au dernier kilométrage du parcours qui a commencé depuis l'installation de l'Assemblée nationale. Et vous verrez que la personnalité qui a été élue à la tête de cette institution reste une référence dans notre pays. C'est une personnalité dont les qualités ne sont plus à démontrer. C'est une personnalité qui est douée d'une expérience et d'une expertise. Et nous espérons qu'une telle personnalité à la tête du premier Sénat de notre pays serait un atout pour la réalisation du destin commun. Donc c'est un acte fondamental, c'est une institution fondamentale et qui va conduire à l'aboutissement du chemin qui est en cours et qui a été entrepris.
Alors, concrètement, quelle sera la suite?
La suite, c'est que nous allons, dans les jours à venir, procéder à la désignation du président du Conseil et à l'élection du président de la République. Le régime parlementaire, nous le savons bien, a consacré un bicaméralisme et un bicéphalisme. Donc, le bicaméralisme est en train de prendre fin, son institution est en train de prendre fin avec l'installation des deux chambres. Et après, c'est le bicéphalisme, c'est-à-dire les deux têtes de l'exécutif qui vont être installées également dans les tout prochains jours. Et l'élection du président de la République, comme vous le savez bien, se fera par le Congrès qui réunira les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat.
D'accord. Et l'homme, une question ?
Non, je n'ai pas de question. Je crois quand même que dans notre parution de ce jour, on a parlé du Sénat avec l'élection du président Barry Moussa Barké. C'est vrai que j'écoute le député Sotlingbe depuis que j'arrivais. Et là, il est en train d'expliquer la façon dont ça va se passer. Sauf que c'est vrai, on dit que la répétition est la meilleure pédagogie, mais on constate qu'il y a beaucoup de sensibilisation et d'explications autour de ce schéma, c'est-à-dire Sénat plus Assemblée nationale, régime parlementaire avec élection du président du Conseil des ministres et le président de la République. Je crois qu'au plus tard, le 6 mai 2025, les institutions devraient se mettre en place avec le président de la République et le président du Conseil des ministres. Maintenant, je l'ai toujours dit, c'est que pour l'instant, les choses se passent comme prévu par les textes constitutionnels. Maintenant, on attend de voir comment la scène politique va se réorganiser, parce que après le 6 mai, comment est-ce que la scène politique va se réorganiser? Les élections municipales, comment est-ce que ça va se passer? Quelles seront les conditions, etc. Et donc, on verra justement l'analyse qu'on pourra faire de la scène politique togolaise après le 6 mai 2025.
D'accord. Alors, monsieur le député, c'est vrai que l'homme a touché ce point tout de suite concernant surtout la sensibilisation qui est faite, une campagne de sensibilisation qui est lancée sur la nouvelle constitution. Mais si, après promulgation, on vient faire une sensibilisation autour de la nouvelle constitution, est-ce qu'il n'y a pas un souci, monsieur le député?
Le journaliste ou bien votre collègue Elom Atisogbe a rappelé tout de suite que la répétition, c'est la meilleure forme de pédagogie. Donc, pour nous, nous avons fait une sensibilisation, une tournée nationale avant l'adoption définitive du texte. Avant l'adoption définitive du texte. Et aujourd'hui, le ministre des Droits de l'Homme en charge des relations avec les institutions a également entrepris une démarche de sensibilisation. Et nous, initiateurs du texte et tenant à l'Assemblée à l'époque, et au niveau du parti, nous avons également jugé nécessaire de continuer cette pédagogie. Parce que vous convenez avec nous qu'à un moment donné, ceux qui étaient sur des débats de forme de ces tests sont revenus et au-devant de la scène, et c'est un plaisir pour nous. Et ils sont maintenant allés sur le fond du texte. Et sur le fond du texte, je ne pense pas qu'ils servent aux populations, en réalité, le vrai contenu du texte. Mais on est en train de fumer la population, il est de notre responsabilité. Et surtout, à ces moments précis et clés du basculement définitif, de continuer la pédagogie pour que le peuple soit davantage renseigné, étant donné que la pédagogie n'est pas une nuisance.
Alors, monsieur le député, c'est vrai qu'il y a des contestations, et vous l'avez si bien dit, il y a des gens quand même qui contestent alors cette nouvelle constitution, et en l'occurrence la classe de l'opposition, et vous avez souvenance que tout récemment, il y a eu un meeting à Kassimé ici pour démontrer cette contestation, et d'abord, vous l'avez si bien dit, compte tenu alors de la forme même surtout de cette nouvelle constitution, c'est-à-dire la procédure pour l'adoption alors de cette nouvelle constitution. Est-ce que pour vous, vous n'avez pas vu vraiment qu'il y a eu un problème dans l'adoption, ou du moins dans la forme, la procédure à utiliser pour l'adoption?
À moins que si vous en avez, sinon, nous, la Constitution de 92 a prescrit elle-même les procédures de sa révision. Ces procédures de révision sont prescrites à l'article 144 de cette Constitution. L'Assemblée nationale a fait une proposition de révision de cette Constitution. Elle a été soumise de manière rigoureuse aux procédures législatives et elle a été votée. Quand le texte a été voté, rien n'empêchait, bien obligeait plutôt le président de la République à promulguer le texte. Mais c'est vrai que étant un homme d'État, étant une personnalité, un chef d'État qui est à l'écoute de ses populations, des citoyens, le chef de l'État a jugé qu'il faudrait aller sensibiliser et procéder à une seconde lecture du texte. C'est sa qualité de chef d'État, du président de la République, garant des institutions de la République. Puisque la procédure législative a été suivie au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, la seconde relecture a été faite et le texte a été adopté. Bon, vous convenez avec moi que ceux-là qui aujourd'hui sont revenus peut-être pratiquement un an après au devant, les arguments qu'ils avançaient à l'époque ne sont plus les mêmes arguments aujourd'hui.
Mais justement, à l'époque, il parlait du référendum, que c'est une nouvelle constitution qui est là, et il est important qu'on soumette plutôt alors cette nouvelle constitution au peuple.
Je vous rappelle qu'il ne parlait pas seulement que du référendum. Ils avaient dit que les prérogatives des députés étaient expirées. Les députés n'avaient plus de pouvoir pour légiférer en ce moment.
Effectivement, parce qu'il disait que vous étiez en fin de mandat.
Les mêmes personnes, quand leur supposé, entre guillemets, fin de mandat, quand ils étaient à l'Assemblée nationale en 2013, quand les 5 ans étaient passés, ils étaient encore restés à l'Assemblée nationale plus de 7 mois. Ils ne continuaient pas à légiférer. Ils ne continuaient pas à voter les lois, à adopter tous les textes. Ils ne se sont pas dit eux-mêmes que leur mandat avait pris fin et que leur prérogative était expirée. Ils ne l'ont pas dit. Donc vous comprenez avec moi. Mais plus mieux. Quand nous avions adopté la loi portant augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale et voté le texte portant modification du code électoral, ces mêmes personnes n'ont jamais dit que nous étions en fin de mandat, que nous n'avons plus de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de la politique politicienne. Quand on avance tel argument aujourd'hui, on se bute, on revient, on fait un revirement et puis on avance d'autres arguments. Nous sommes très, très content qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes reviennent sur le fond du texte. Sur la question du référendum, je voudrais vous lire l'article 144, alinéa 2, puisqu'il s'agit de la pédagogie, nous continuons toujours cela. L'article 144 de la Constitution de 1992, en son alinéa 2, dispose le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale est soumis au référendum. Donc vous comprenez avec moi aisément que la question du référendum est conditionnée. C'est du moment où vous n'arrivez pas à recueillir les 4/5 du vote de la révision que vous allez au référendum. Étant donné que cette condition est réunie, à l'Assemblée nationale, dans ses prérogatives, c'est l'Assemblée nationale qui a initié la révision de la proposition de loi. Le texte là ne pourra en aucun cas être soumis encore au référendum.
D'accord. Est-ce qu'au niveau de la mouvance présidentielle, vous comprenez la contestation alors de l'opposition?
À cet instant, l'opposition est dans son rôle. Et c'est le pluralisme politique. C'est un débat d'idées. Et ça, c'est normal dans une démocratie. Vous savez, ils tirent là où ça les intéresse. Mais pourquoi ils sont revenus aujourd'hui au devant de la scène? C'est parce que quand les élections législatives ont eu lieu en 2024, l'Assemblée nationale est installée. Ils ont dit qu'ils ne vont pas siéger parce que l'Assemblée nationale est sous la bannière de la 5e République. C'était juste ça. Après, quand les élections sénatoriales ont été annoncées, Ces mêmes personnes ont dit qu'ils ne vont pas participer à ces élections-là parce que c'est la 5e République. Maintenant, qu'est-ce qui justifie leur revirement? Et ils disent cette fois-ci qu'ils vont participer aux élections municipales. Ils n'ont pas d'argument. Et le seul argument, c'est d'aller sur le fond de la Constitution. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Deux articles de ce texte, l'article 50 et 54. 54 justement. Vous savez, l'article 54, ils disent que l'Assemblée nationale ne peut pas voter une motion de censure contre le gouvernement. Ils disent que l'Assemblée nationale est dépourvue de ses prérogatives et que l'Assemblée, le président du Conseil a toutes les prérogatives. Et lorsque l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, qui est le président du Conseil, soumet son programme à l'Assemblée nationale, il est menacé tout de suite de la dissoudre s'il n'est pas adopté.
Oui, mais l'article 50, est-ce que je ne vois pas justement un président du Conseil de ministres très puissant?
Avant d'en arriver, si vous le permettez, puisque nous sommes ici pour la pédagogie, je vous lis le contenu intégral de l'article 54. L'article 54 dispose: le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. Et c'est le 3e alinéa qui est très intéressant, puisque les gens ne lisent pas ces dispositions qui suivent. Le 3e alinéa dit: le droit de dissolution s'éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale transmet au bureau de l'Assemblée nationale le nom du nouveau président du Conseil désigné conformément à l'article 48. Vous savez, c'est tellement aussi précis que ce n'est pas un droit qui n'est pas encadré du président du Conseil. Dans les 30 jours de l'annonce, si la majorité qui est au Parlement désigne son successeur, son droit de dissolution est systématiquement, automatiquement éteint. Je poursuis à l'alinéa 4. L'alinéa 4 dit ce qui suit: l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Une telle motion transmise au bureau de l'Assemblée nationale par le parti ou la coalition politique majoritaire à l'Assemblée nationale n'est recevable que si elle est signée par les deux tiers au moins des membres composant l'Assemblée nationale et indique le nom du nouveau président du Conseil. Donc la motion de défiance est votée à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale. Qu'on est venu avec ce que les discours que ces partis politiques ont servi la fois dernière à Kassimé, ce sont des discours en figurique. Ça n'a pas de sens. Et puis plus loin, si nous prenons l'exemple de l'Allemagne, vous savez, l'Allemagne est l'une des démocraties parlementaires. Et quand leur texte, la loi fondamentale allemande, parle de motion de censure constructive, c'est-à-dire que vous ne votez pas une motion pour renverser le gouvernement, mais vous votez une motion pour désigner le successeur du chef du gouvernement.
D'accord. Ambrasse, bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Je ne vais pas bien.
D'accord. Ce qui est sûr, vous aurez certainement une question ou une observation.
Je n'ai pas de question. Moi, j'ai voulu dire ce qui est de mon avis sur toute cette histoire de régime parlementaire,
oui, dites-le,
de ces conditions-là. Vous savez, on ne transforme pas un citron pour une goyave pour un peuple. Tous les raccourcis que les gens sont en train de faire là. Et moi, je me dis que un jour, eux-mêmes, ils comprendront que leurs fils et leurs enfants aussi subiront ce qu'ils ont semé. Nous sommes dans un pays où c'est les mêmes personnes qui sont là. Un peuple qui n'est pas adhéré, qui n'a pas adhéré à une constitution, on le vote nuitamment pour changer une autre constitution. L'ancien parlement dont on parle n'a pas changé une constitution radicalement. L'ancien parlement a fait une révision constitutionnelle. C'est différent d'un changement carrément de la constitution et d'aller à un nouveau régime. C'est deux choses différentes. De deux, il semble que ceux-là même qui ont concocté cette constitution bâtarde, comme certains de l'ANC l'appelle. Il semble qu'ils ne maîtrisent même pas le contour de ce qu'ils ont concocté. Parce qu'il semble qu'on leur a vendu un chat à la place d'un chien. Je le dis parce que je m'échauffe quand j'entends des choses sur les médias, quoi. Un régime parlementaire, c'est le pouvoir du peuple qu'on donne au Parlement. Et s'ils veulent que ce Parlement soit deux chambres, avec un Sénat budgétivore et inutile, j'estime qu'au moins l'Assemblée nationale, là-bas, les gens ont été élus. Il n'y a pas de gens dont le tiers a été nommé. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer une constitution, l'imposer au peuple de force, et empêcher l'opposition de manifester pour contester, et ensuite prendre le bâton de pèlerin maintenant pour aller faire des consultations, pour aller faire des sensibilisations. C'est mettre le bœuf devant la charrue devant le bœuf. J'ai compris qu'il y a un souci au niveau de cette constitution, raison pour laquelle ils sont obligés d'aller encore sensibiliser, je ne sais même pas qui. C'est-à-dire que le directeur central, le directeur administratif, c'est-à-dire tout ce qui est représentant du gouvernement, c'est eux qu'on est en train de sensibiliser, pas le peuple togolais. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus l'Inde, ce n'est plus l'Italie, ce n'est plus l'Allemagne. Ils ont encore trouvé un autre pays, c'est le Canada maintenant. Parce que quand Trudeau est parti, il a été remplacé. Donc ce qui veut dire que le président du conseil est plus puissant que le parlement, que le peuple a élu. Quelqu'un qui n'a pas été élu peut démettre un parlement. Vous ne voyez pas l'incongruité? Je le dis parce que je me sens mal. Je ne vais pas dire des choses ici pour qu'on dise que j'ai insulté, non. Je me sens très mal parce qu'on est dans le même pays et le pays nous appartient à tous. Le pays n'appartient pas à un clan, à un groupe de 500 personnes, non. Le pays appartient à 8 millions d'habitants. Et donc, si tel est le cas, il y a des procédures, même la CVGR, avant de conclure la CVGR. Igué Olatokoumbo avait son ACS, on a fait des consultations nationales pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, jusqu'au nord. Nous, on a été à Kara. Mais une constitution, la loi fondamentale d'un pays, vous le fabriquez notamment en catimini, vous l'imposez au peuple, après maintenant vous retournez devant ce peuple. Vous pensez que c'est admissible? Et donc aujourd'hui, l'histoire retiendra, parce que j'ai lu quelque part, quelqu'un a dit, l'histoire nous jugera. Effectivement, moi j'ai dit que l'histoire vous a déjà jugé, vous a condamné. Le peuple même vous a déjà condamné. Si vous ne le voyez pas, il faut qu'on leur ouvre les yeux pour qu'ils voient qu'ils sont déjà condamnés par le peuple. Et donc, pour finir...
Rapidement, embrasse.
Pour finir, cet exercice, on n'en a pas besoin. Parce que cet exercice devait être fait en amont et passer par un référendum. Même les régimes militaires, aujourd'hui en Guinée, ils veulent passer par référendum. Mais on se dit, nous, on n'est pas un régime militaire. C'est nous qui faisons la contorsion des lois, les lois que nous sommes censés respecter, c'est nous qui faisons une contorsion pour aller là où on veut, juste pour installer un régime monarchique. Ce n'est pas bien pour le Togo, et ce n'est pas bien pour ceux qui dirigent ce pays.
Merci Ambroise. Oui, monsieur le député, vous avez écouté les observations d'Ambroise. Oui, d'aucuns disent, mais pour cette nouvelle constitution où on a un président du Conseil des ministres qui n'est pas élu, un élu alors du peuple, est-ce que ce n'est pas, déjà, quand on prend les régimes parlementaires, est-ce qu'il n'y a pas contradiction?
Je voudrais remercier M. Ambroise, que j'ai l'habitude d'écouter également. Et je voudrais qu'on dépassionne aussi les débats. Ce n'est pas dans la passion qu'on dépassionne et que les arguments qui devraient être avancés doivent être soutenus, parce que nous, soutenus par des dispositions législatives. Je commence là où il a terminé. Je prends l'exemple de la Guinée. À cet instant où la Guinée veut soumettre sa constitution au référendum, la Guinée ne dispose pas d'une assemblée légiférante comme qui déjà régit par une constitution qui a prévu un mécanisme de révision. Vous savez que le régime militaire a dissous toutes les institutions et a mis en place une assemblée constituante transitoire. Que ça soit clair, parce qu'on n'est pas dans les mêmes schémas. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il a parlé du changement. La constitution est ici. Qui n'a qu'à me montrer dans la constitution là où il y a le mot changement? Changement, il n'y a pas dans la constitution. Changement, le mot changement, il n'y a pas dans la constitution. C'est l'expression révision qu'il y a dans la constitution. Et dans la rédaction des textes ou bien dans la légistique. Lorsque la réécriture d'un texte emporte sa substance, le texte devient un nouveau texte. Ce n'est pas au niveau de la Constitution seule. Là, c'est le second élément. Le troisième élément, il a parlé de la possibilité pour le président du Conseil qui n'est pas élu et qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Je voudrais le rappeler qu'il faut qu'il aille aux informations, qu'il recherche et qu'il nous donne des exemples précis. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le ferment de la réflexion qui a conduit à la proposition de la révision qui a accouché la nouvelle Constitution est parti d'un certain nombre d'analyses en profondeur et d'un état des lieux, d'un benchmark. On n'a pas systématisé un seul pays. Donc, le président du Conseil a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui incarne l'exécutif. Celui qui incarne l'exécutif dans toutes les démocraties, c'est son droit. Et il parle d'élection. Il a donné l'exemple du Canada. Fort heureusement qu'il s'est renseigné. Marc Carney a été investi par le Parti libéral qui devient président et premier ministre au Canada sans être un élu. C'est un exemple, tant d'autres. Il a également parlé du peuple qui... Vous savez, après cette réforme, pendant que le texte était en attente d'être promulgué, nous avons eu la chance d'aller aux élections législatives. Et je pense que mon frère Ambroise doit comprendre que le fait que l'opposition avait demandé à l'époque de sanctionner le Parti Unir qui a voté cette constitution pour que eux, quand ils arrivent à l'Assemblée, ils vont mettre de côté le texte. Et le peuple ne les a pas écoutés. Cette majorité qui a été donnée au Parti Uni, parce que nous avons demandé, le peuple a compris, vous avez dit que vous avez compris, si c'est déjà il s'agit, alors donnez, plébiscitez le Parti Uni à la suite de ces élections. Vous avez vu les résultats. 108 députés sur 113, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est là, je reviens pour lui dire que quand il parle du pouvoir du peuple, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le peuple qui s'est exprimé dans sa grande majorité en plébiscitant le Parti Unir et en décidant que le Parti Unir puisse diriger ce pays parce que le chef de gouvernement désormais, qui est le président du Conseil, vient de la majorité parlementaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est le peuple qui désigne l'exécutif. C'est de ça qu'il s'agit.
D'accord.
L'autre élément...
Oui, rapidement.
Il a dit que la Constitution a été adoptée notamment. Ça, ce sont ces discours-là. Je dis c'est des discours en figurique. Parce que des textes ont été votés plus notamment que ça. Le budget, par exemple. Personne n'a jamais dit que c'est adopté notamment. Mais est-ce que Ambroise peut nous dire qu'il y a une disposition législative ou bien constitutionnelle qui empêche les députés de voter un test à une heure donnée? S'il y en a, nous nous alignerons là-dessus. Donc, je pense que il faut que qu'on dise concrètement, de manière objective, ce qui est vrai, ce qui est régulier, ce qui est légal, ce qui est correct.
Merci, le député Soklenbe. Oui, Elom.
J'ai une question.
Oui.
Au cas où, par exemple, le président de la majorité ou du parti qui a la majorité parlementaire ne souhaiterait pas ou bien décliner le fait d'être président du Conseil des ministres. Que disent les textes?
Merci. Je crois que c'est toujours la pédagogie. Hein. Le texte dit que le chef du parti majoritaire ou de la coalition de partis majoritaires à l'Assemblée nationale.
Oui.
Donc, au moment de la désignation de ce chef de parti, sûrement que le parti a un chef. Si le parti a un chef, qu'il avait un chef avant la désignation et que ce chef désistait, le parti va investir un autre chef. C'est comme le cas de Marc Carney au Canada. C'est le chef du parti libéral.
Non, moi,
qui
j'aimerais
était
savoir si les tests sont clairs là-dessus. C'est que si c'est bien écrit noir sur blanc. Pour qu'on ne se retrouve pas demain dans une configuration où bon, ça va nécessiter d'autres interprétations.
Non,
pas si vous comprenez.
Le test est clair, c'est le chef du parti majoritaire.
Okay.
Donc, le tout parti qui désigne son chef, qui investit son chef de parti, le parti sera désigné à l'Assemblée nationale comme chef de gouvernement.
D'accord. Oui, Michel.
Non.
D'accord. Ambos.
Oui, je crois qu'il y a, beaucoup d'amalgame dans ce que le monsieur, votre invité, est en train de dire.
C'est un député.
Oui,
député à l'Assemblée nationale.
D'abord, je précise que les élections qui ont été organisées, il y a certains partis politiques qui ont estimé qu'il y a tellement de fraude. Donc moi, je ne crois pas à ces histoires de trucs. Parce qu'il y a même, au bas mon nom, il y en a qui ont été interloqués du fait de ce qu'ils ont vu. Il y a tellement de flots. Et ça a toujours été comme ça, à part 58 ou 94, il n'y a pas eu des élections claires dans ce pays. Ça, c'est un de deux. Il parle de changement. On n'est plus dans un régime semi-présidentiel ou bien présidentiel comme on était dans le passé. Ici, on ne parle plus de révision. Quand vous ramassez un test, vous mettez dans la poubelle et que vous créez un test suivi d'un régime, ce n'est plus une révision constitutionnelle. C'est un changement de constitution. C'est une question de terminologie, on parle de changement, on parle de révision. C'est un changement de constitution. Et quand le régime a changé, c'est la constitution qui a changé. C'est pas si moi, c'est moi qui me trompe, quoi. Un régime a changé. Nous, on n'était pas dans un régime parlementaire. Le même régime qu'ils avaient rejeté, que le ministre Bahora avait rejeté par le passé, il s'accroche maintenant, aujourd'hui, comme une chauve-souris. C'est pour vous dire, en réalité, que le même, il a parlé d'expérimentation. Quand moi, j'étais dans mon véhicule, je le suivais, il a dit, il veut l'expérimentation. Non, vous ne maîtrisez même pas la chose avant de commencer par l'exercer. La constitution de 92, est-ce qu'ils ont fini de l'expérimenter? La limitation du mandat 2, est-ce qu'ils ont ils l'ont une fois expérimenté? Ils n'ont jamais expérimenté pour savoir si on limite le mandat et qu'il n'y ait plus quelqu'un qui fait 20 ans, on saura qui est venu et comment il fera pour qu'on puisse faire la différence. C'est au peuple de faire la différence. Maintenant, ils n'ont jamais fini d'expérimenter la constitution de 92. Le pire, c'est qu'ils ont modifié 5 fois cette constitution-là. Ils l'ont réduit à néant. Ils l'ont dépoussiéré, ils l'ont dépecé. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, et que ce régime dans lequel, dans la quatrième dans lequel on se retrouvait, ne laissait plus place au président de continuer un autre mandat, parce que la CDAO disait de démettre le mandat, on est obligé d'aller forcer à un régime qui consacre la royauté dans notre pays. C'est ça la réalité. La preuve, le président va être désigné par la majorité qui est à l'Assemblée. Le président qu'on élisait par le passé au suffrage universel a été réduit à néant. Et donc vous comprenez que nous ne sommes plus dans un régime, dans un pays où le peuple peut maintenant s'exprimer. Là où on nous amène pour exprimer que c'est le peuple qui s'exprime dans un régime parlementaire, là aussi, le président du conseil, il n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir plutôt, puisque l'Assemblée, puisque le peuple qui a désigné ses représentants. Donc aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont claires. C'est-à-dire que les gymnastiques, les masturbations intellectuelles qui se font sur les médias, nous on écoute, le peuple, on se moque d'eux-mêmes. Hein. Si vous suivez les auditeurs, vous allez comprendre qu'on ne les regarde même pas. Parce qu'eux-mêmes, ils iront droit dans le mur. Et après, ils reviendront. La preuve, c'est parce qu'ils sont déjà dans le mur qu'ils ont commencé par encore sensibiliser. Non, c'est une constitution. Une constitution, on fait toujours des consultations avant de le faire et on le soumet au référendum. Tant qu'il n'y a pas ça, on n'a pas de constitution. Et les gens ont raison de le combattre jusqu'au dernier retranchement. C'est clair. Et il n'y a pas de passion. Moi, c'est mon ton. C'est ma manière de parler. Que les personnes ne me disent que je suis passionné. Derrière la passion aussi, c'est une qualité.
Monsieur le député.
Oui. Bon, je comprends Monsieur Ambroise comme toujours. Hein. Il reste toujours dans sa position. Mais je voudrais lui rappeler. C'est une règle qui gouverne toute réforme d'un texte. Peut-être il devrait aller se renseigner pour savoir, dans les règles régissant la légistique, quand vous changez la substance d'un texte, ou bien vous modifiez la substance d'un texte, que devient ce texte-là? S'il a la réponse à cette question, il comprendra la démarche. La seconde chose, il a parlé de fraude des élections. Vous savez, ceux qui ont été à ces élections, je pense qu'il veut être plus royaliste que le roi. Ceux qui ont été à ces élections, ils ont formulé des recours là où ils ont estimé qu'ils ont été, ils ont été lésés. Ils ont formulé des recours et la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les recours. Ces personnes, certains d'entre eux, sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et vous savez ce qui se passe généralement? C'est-à-dire, quand on va à une élection, dans ce pays, là où nous avons gagné, on ne dit jamais qu'on nous a volé là-bas. Mais là où nous n'avons pas gagné, c'est là où on dit qu'on nous a volé. Et je pense que le peuple doit comprendre que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, au Parti Unir, lorsqu'on gagne à quelque part, nous acceptons qu'on nous a gagné. Mais lorsque nous gagnons à quelque part, acceptez aussi que nous avons gagné. Ce n'est pas parce que je n'ai pas gagné que je dis qu'on m'a volé. Est-ce que vous comprenez? Il parle de modification de la Constitution un certain nombre de fois. Il faut qu'il interroge même la France. Le nombre de fois que la France a modifié sa Constitution, c'est 25 fois. Ça veut dire que la loi n'est pas figée. La loi n'est pas figée. La loi évolue avec les circonstances. Et nous avons fait une expérience. Des trois dernières décennies de gouvernance sous la Constitution de 92, je ne sais pas quelle leçon il tire de ces trois dernières décennies. Je ne sais pas quel enseignement il tire. Mais nous pensons que la réforme qui a été faite est le salut pour le développement de notre pays. Dans certains pays, à côté ici même, quand on parle d'élections présidentielles, ces élections présidentielles dans tous les pays pratiquement de notre région sont toujours conflictogènes. Et je donnais l'exemple du fait que dans un pays, on a dû transporter les urnes par hélicoptère d'une circonscription à une autre pour permettre aux gens de voter. Et à chaque fois que les élections présidentielles sont annoncées, nous constatons que l'économie est totalement au ralenti. Les investisseurs sont frileux parce que les gens sont dans un cycle de contestation, revendication, contestation, avant, pendant et après. Nous voulons une stabilité pour notre pays. Nous voulons nous focaliser sur le développement.
D'accord.
Dans la Constitution, il n'y a nulle part le mot changement. S'il trouve, il faut qu'il nous le lise. Malheureusement, c'est une prescription de la Constitution elle-même qui parle de la manière dont on peut la modifier. Cette modification qui a été faite, est-ce qu'elle est légale ou bien n'est pas légale? C'est de ça qu'il s'agit.
Je voudrais lui poser cette question. Est-ce qu'on peut aller à un régime parlementaire sans le président de la République actuel, président du Conseil? Vous parlez du régime parlementaire. Est-ce qu'on peut aller à ce régime, comme vous le dites, sans le président de la République actuel?
Je voudrais souligner que le président de la République actuelle, il ne devient pas président du Conseil parce qu'il est président de la République.
Et parce qu'il est
chef. Il ne devient pas président du Conseil parce qu'il est président de la République.
Donc demain, ce n'est pas lui qui sera président du Conseil.
C'est pourquoi je demande aux gens de ne pas cristalliser leur débat sur la personne du président.
Donc on est content
que lui ne sera plus président. La loi est claire. Si le président fort, qui est le chef de notre parti majoritaire, si c'est ce que la loi dit, nous allons respecter la loi. La loi dit le chef du parti majoritaire, à l'instant où je vous parle, c'est le président fort et social.
Il a déjà fait 20 ans.
Qui est le leader du parti qui a obtenu la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale.
Il a déjà fait 20
ans. Et la constitution qui a été élaborée n'a pas dit que lorsqu'un citoyen aurait déjà encaissé tel nombre de mandats, il ne peut plus être chef de parti d'une majorité.
Pourquoi vous n'avez pas consulté le peuple avant d'initier la constitution? Le peuple n'a pas été consulté.
Non, je pense qu'on a répondu à cette question.
N'a pas un mandat impératif. Le député n'a pas un mandat impératif. C'est-à-dire que, avant de proposer un test, avant d'élaborer un test, ou bien avant de voter un test, le député n'est pas tenu, obligé d'aller consulter la population d'abord avant de venir s'exprimer sur son vote ou bien de proposer un texte.
Oui, monsieur le député, c'est vrai qu'il y a vos contestataires qui disent que, en fait, cette nouvelle constitution est installée ou est établie pour que le chef de l'État actuel reste éternellement au pouvoir. Et qu'est-ce que vous leur répondez?
Vous pensez à ça? Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Si nous voulons que le président Faure reste éternellement ad vitam au pouvoir, nous avons la majorité à l'Assemblée nationale en 2019. Nous n'allons pas accepter voter la limitation de mandat. Mais si au cours, en cours de route, ou bien chemin faisant, nous nous sommes rendus, par exemple, que nous avons commis une erreur politique, qu'est-ce qu'il nous fallait à l'époque? Nous allons modifier et sauter le verrou de la limitation pour permettre au président de rester au pouvoir. Bon, je pense que, vous savez, Ambroise, je l'ai dit, moi je le comprends. Mais ceux qui reviennent aujourd'hui sur deux dispositions de l'article de la Constitution, vous savez pourquoi?
Article 50 et article 54.
Vous savez pourquoi? C'est parce que eux, ils veulent aller aux élections municipales.
Comment et ça? Ça, c'est un autre
oui.
débat.
C'est parce qu'ils veulent aller aux élections c'est, municipales. Je vous explique.
C'est un faux problème.
Allez-y. Je vous explique.
Allez-y.
Je disais, quand ils ont récolté les maigres scores aux élections législatives passées, après un silence, après un doute, après une longue hésitation, certains disent finalement qu'ils ne vont pas siéger. Et l'argument retenu, c'est parce que l'Assemblée nationale est sous la Ve République. Les élections sénatoriales sont arrivées. Les gens disent que nous n'allons pas participer parce que c'est sous la Ve République. Maintenant qu'on a dû faire un revirement, il faut trouver des arguments pour justifier ça devant le peuple. Et c'est pour ça maintenant qu'on invoque les dispositions de la Constitution. Mais je voudrais leur dire que ce qu'ils ont dit, il faut qu'ils aient le courage quand ils sont devant le peuple ou bien devant ceux-là qui les rassemblent, qu'ils aient le courage de lire les dispositions de l'article de la Constitution qu'ils citent, qu'ils aient le courage de lire. Mais ils ne lisent pas. Et c'est ça, ce que je dis, que c'est fumer la population. C'est semer la confusion au sein de l'opinion. C'est l'une des raisons pour notre pédagogie. Parce que les gens ne pensent pas qu'à un moment donné, ils peuvent être rattrapés par leur choix d'hier. Vous allez constater aujourd'hui qu'il y a des démissions et des exclusions quotidiennes dans les rangs de ce parti. Parce que à un moment donné, ils sont dans une contradiction sans précédent. Ils sont dans des incohérences exagérées. Ils ne se retrouvent plus. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un dit que c'est parce que 5e République, je ne vais pas siéger à l'Assemblée nationale, je ne participe pas aux élections sénatoriales, et d'un seul coup, la personne dit, je vais aux élections municipales. C'est sous quelle République? Alors que le code électoral qui organise ces élections-là, c'est une ordonnance prise sous la bannière de la 5e République.
Merci, monsieur le député. Nous allons maintenant, je sais que vos compatriotes vous ont écouté pendant pratiquement plus d'une heure de temps, et nous allons maintenant leur donner la parole, puisque c'est le principe à l'heure de l'émission. Et nous allons leur donner la parole. On va les écouter aussi sur nos deux numéros, 90-86-35-35, ou le 91-36-63-75, et également sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Mais bien avant, nous allons écouter ceux qui font vivre alors cette émission.
13.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Voilà, et monsieur le député, vous avez bien porté votre casque pour écouter nos auditeurs. Ils sont maintenant disponibles à rentrer en ligne, 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Votre nom c'est?
C'est Abdel.
Ah, Abdel. J'espère que vous
comment
allez
vous portez?
Ça va pas, la grâce de Dieu. Allez-y.
Bonjour à votre invité, monsieur le député.
Bonjour, monsieur
honorable
Abdel.
Député du Parlement de la CEDEAO.
Bonjour, monsieur Abdel.
Je voudrais vous remercier immensement pour les éclaircissements dont vous avez fait preuve ce jour. C'est vrai que nous qui n'avons pas le document de la Constitution, de la Ve République. Ne maîtrisons pas beaucoup de choses, mais vous avez éclairé la lanterne. Mais en même temps, c'est une doléance si vous pouvez faire des pieds et mains au niveau du gouvernement pour que ce document-là soit distribué à la majorité du peuple togolais. Et ça fera du bien, ça permettra aux gens de lire et de comprendre beaucoup de choses. Je voudrais également saluer Ambroise et lui dire encore une fois, comme l'honorable l'a dit, de dépassionner le débat. Vous savez, moi, il y a une chose que je reproche souvent aux journalistes qui sont plateaux, et c'est de manquer de respect aux invités. Hein? Peu importe nos sentiments, si nous avons une invitée avec un titre donné, donnons-lui tout le respect. Et ce n'est pas dans les cris que nous allons obtenir des réponses, mais c'est dans un débat. La politique, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, ce n'est pas de la violence.
Merci beaucoup, Adel, merci beaucoup pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Oui, bonjour, mon grand frère Pascal.
Bonjour, Benoît. J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais très bien, grâce aussi à votre invité. Bon, je salue l'honorable député. J'ai une question. Bon, il a parlé de la France a modifié, a touché la Constitution 25 fois. Et la France a eu son indépendance il y a combien d'années? Combien de fois on a touché notre Constitution entre 1992 et aujourd'hui? La seconde question, je pense qu'il a parlé de... J'ai oublié un peu là. Et...
Merde. D'accord, Benoît.
Oui, je vais revenir.
Il a parlé qu'on
transporte les urnes. Il y a des pays où on transporte les urnes par hélicoptère que la veille après les indépendants, les imprécisateurs. Pourquoi ne pas laisser... Pourquoi ils ont interdit l'Union européenne de venir voir la transparence des
élections, vous voulez dire?
Oui, et aussi la dernière élection présidentielle. Le président, son président Yassine a été élu à 70%. La veille, on a vu une foule se marrer chez lui. Pourquoi ne pas appeler ces gens-là, leur demander et leur proposer si vraiment ils veulent changer la constitution.
Merci Benoît et pour votre intervention. Allô?
Allô, bonjour Monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Ah, ça va bien.
Votre nom c'est?
C'est Dodi de Galage.
Ah, Dodi, allez-y.
Ah, je remercie les invités. Je voulais poser une question à notre député.
Oui, allez-y, Dodi.
Il est le député togolais et le député de la CEDEAO. Il ne voit pas que notre pays, le Togo, ça ne va pas. Par quel côté? Le moment qu'il voulait faire la révision constitutionnelle, il devrait consulter le peuple qui les a donné le pouvoir d'être député à l'Assemblée. Qui peut aller vendre un terrain? Un mandataire qui peut aller vendre le terrain de leur propriété sans avertir la famille. Et de ne pas faire compromis avec la famille qui l'a mandaté. Donc, il ne faut pas qu'il nous trompe sur le plateau là-bas. Ceux qui critiquent notre conseil.
Allez,
Dodi. Oui.
Oui, allez-y.
Je dis, le confrère journaliste qui est avec toi, Ambroise, est dans cette propos bien mesuré. Il est togolais, c'est un faillant togolais. Ça. Si on m'a dit de les voter les deux, là, je vais voter en moi.
D'accord, merci. Ok, bien merci, mon cher ami Dodi, pour votre intervention 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado.
Oui, bonjour, plateau.
Oui, allez-y.
Vous savez, on a tapé un député de la CEDEAO aussi, non? Mais si on ne tape pas, on dit tout seulement. Donc, on ne m'a pas de respect. Bon, voilà ma question. Pourquoi on a enlevé en aucun cas dans notre constitution? C'est ça qui amène tous ces problèmes. Hein. Si c'est qu'il y avait en aucun cas, on n'aura pas ce problème. Bon, maintenant, ils ont dit qu'ils sont partis voir le peuple. Quel peuple? Et comment? Ils sont partis voir quelques Togbi. Combien de Togbi? Nous, si personne ne nous a pas contactés. Ce que moi je voudrais dire, la constitution de c'est dire que la population ne se trouve pas. Ça, c'est une réalité. C'est mal préparé. Pourquoi ils ont fait ça notamment? Ils ont dit qu'il n'y a pas un règlement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas aussi un règlement pour choisir les élections. On peut aller aux élections des maires et on peut aller au pénal. Merci, bonne journée.
Merci, M. Gadeau, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 75. Allô?
Allô, bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom, c'est?
C'est M. Bessin.
M. Bessin.
M. Bessin, bon, sur la constitution, moi, je n'ai pas un souci là-bas. Hein. Si aujourd'hui, on fait 5 rubriques et qu'il arrive à manger, c'est bon. Et le cavalier qui est assis là-bas, le député, est-ce qu'aujourd'hui, il dit que cette constitution nous permettra de bien vivre au Togo? C'est ma seule question.
D'accord.
On ne peut pas manger. Et on dépend de l'argent inutilement pour les inutilités. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ça là, on promet le meilleur aux Togolais? C'est ça que moi je veux.
D'accord. Merci, M. Besson. Le député Soklingue va répondre incessamment à cette question. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Madame Essie. Oui, Madame Essie, nous vous écoutons.
Bon, je vous dis bonjour.
Bonjour.
Je vous dis bonjour, on est encore là. On n'a que ça à faire, quoi, Pascal. On n'a que ça à faire parce que les gens ont refusé qu'on travaille. Et ils ont cumulé, ils ont braqué la République depuis 6 décennies. Et ils ne veulent pas s'en défaire. Vous avez vu, l'invité nous parle avec suffisance, aisance, parce que ils gouvernent avec la force des armes. C'est pour ça qu'il se permet ça. Sinon, on a une constitution, un papier, qui dit qu'on est togolais, on doit bénéficier de tous les droits de travail décent, d'allocation, de machin, pour être bien, mais et qu'on doit faire un mandat de 5 ans. Mais les gens ont passé outre tout ça là, et puis ils se pavanent en plus au lieu de raser les murs. On a dit que le président actuel, le régime actuel, ils ont fait 20 ans, non, au lieu de 10. En 2005, le président nous a promis des réformes en 2008, des réformes démocratiques. C'était pas fait. Après, il y a eu la PG 2015. Ils devraient passer la main. C'est pas fait. 2020, 2025, maintenant, on nous crame carrément. On brûle carrément notre constitution. Le seul papier qu'on a pour nous monarchiser la République. Et puis, les messieurs viennent nous expliquer quoi là-bas. Hein? C'est pas normal. Et puis, ils gouvernent avec ces concepts-là. Le chien à bois, la caravane passe. Le train parti, rentrer dedans ou rester à la gare, et puis des passages en force et tout. Et ils sont fiers. Ils sont fiers, les dirigeants, là, le régime, les gens du régime. Là. Vous êtes fiers là-bas. C'est pas normal.
Merci, Madame Essie. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission.
Allô,
bonjour.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va. Je rends grâce à Dieu.
Votre nom, c'est...
C'est Kafoui.
Ah, Madame Kafoui, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Hegranaoui.
Oui, allez-y.
Je voudrais dire à votre invité d'arrêter de prendre des Togolais pour des cons. Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas dupes. Il vient nous parler ici de la Constitution disant que nulle part il n'est écrit changement. Dans la Constitution qu'ils ont changé concernant l'élection et le mandat du chef de l'État. Dans cette constitution, il est dit que pour toucher à ça, il faut un référendum. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'ils arrêtent de prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas dupes. Ils ont tout pris, on les regarde faire, le ciel est là et Dieu est là. J'ai dit.
Madame Kafoui, merci pour votre intervention. Nous revenons en plateau. Monsieur le député, nous revenons en plateau. Vous avez écouté les uns les autres, c'est-à-dire vos compatriotes qui se sont prononcés. Et on commence peut-être par Madame Kafoui qui parlait alors du fait qu'il doit y avoir du référendum et aussi par rapport à la gestion, à la gouvernance que les Togolais vous regardent faire maintenant.
Oui, je voudrais remercier tous ceux qui se sont intervenus dans cette émission. manifester leur intérêt et poser des questions encore de compréhension. Et c'est là même l'intérêt de l'émission. Madame Kafoui, je crois que il y a un problème. Il y a un problème puisque j'avais dit dans le texte que la question du référendum est conditionnée. La question du référendum est conditionnée. Et puis, la révision ne portait pas sur uniquement le mandat du président de la République. C'est une révision qui emporte la substance du texte. Et l'article 144 est clair. Si vous n'obtenez pas les 4 cinquièmes, il faut aller au référendum. La question qu'il faut se poser, si c'est cette révision, si ça a respecté, on a obtenu la majorité qualifiée. Et la réponse, elle est oui. Il y a aussi quelque chose que je voudrais. Il y a des gens à qui vous expliquez quelque chose, ou qui comprennent quelque chose, mais ils gardent leur position. Quel que soit ce que vous direz, leur position ne va jamais varier. Moi, je ne pense pas que dans une démocratie, il faut traiter quelqu'un de menteur. Je ne pense pas que dans une démocratie où il y a un débat d'idées, il ne faut pas traiter quelqu'un de menteur. Je respecte Mme Kafoui et je pense que peut-être si elle ne comprend pas aujourd'hui, elle comprendra demain. Et je demande qu'elle se procure de la nouvelle constitution et qu'elle fasse une lecture de cette constitution. Nulle part dans la constitution de 92, il y a eu le mot changement. Il n'y a pas. Et je le dis, je vais le répéter encore, dans la légistique, lorsque la rédaction, ou bien la modification, ou la révision d'un texte, emporte la substance du texte, ça donne un nouveau texte. Il y en a plusieurs comme ça qu'on a adopté. À l'Assemblée nationale. C'est pas une histoire de changement qui ne devait pas être une révision. C'est d'accord. Pas de ça, il s'agit.
Merci. Notre temps qui nous talonne déjà. Pour ce qui concerne Madame Essi, Madame Essi a fait des commentaires et des observations. Mais pour Monsieur Bessin qui demande si déjà avec cette nouvelle constitution, finalement le Togolais trouvera une vie meilleure.
Oui, je pense que moi je l'avais dit et j'avais échangé avec notre collègue ou bien votre collègue Michel sur la question. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour le peuple et ce pourquoi nous sommes convaincus, le régime présidentiel et semi-présidentiel ont été leur seuil d'efficacité dans notre pays et dans notre sous-région. Nous avons vu les preuves du régime parlementaire, la stabilité que ce régime offre. Ce que nous pouvons gagner dans ce régime, nous croyons fermement à cela et que nous sommes préoccupés par le bien-être de tous les Togolais. Et c'est cette aspiration, c'est cette vision que nous avons et en nous proposant cette modification de ce texte.
Monsieur Sokalbe, pourquoi en aucun cas a été enlevé alors dans l'ancienne constitution? C'est la question de Monsieur Gado.
Non, je pense que Monsieur Gado lui-même... il connaît beaucoup de choses, des fois aussi il pose des questions pour nous taquiner. La réforme de 2019, la constitution de 99, de 92 plutôt, dans sa nouvelle forme qui a été révisée, il n'y avait plus en aucun cas dans cette constitution qui a été révisée en 2024. La question de en aucun cas a fait l'objet d'un certain nombre de polémiques. Et il y avait un expert qui avait proposé une rédaction de modification pour la constitution de 92, et c'est cette rédaction que l'Assemblée nationale avait pris en compte en 2019.
Oui, rapidement. Il y a l'autre monsieur Dodi qui parlait du fait que pourquoi vous n'avez pas consulté le peuple avant de promulguer justement cette nouvelle loi.
Oui, monsieur Dodi dans son intervention à comparer le député à un mandataire de vendeur de terrain. Je voudrais lui rappeler que on ne peut pas comparer le député à un mandataire qui vend un terrain. Parce que dans le mandat qui aboutit à la vente de terrain, il peut avoir des clauses dans lesquelles le mandataire ne peut pas poser certains actes lui seul. Il doit requérir d'abord l'aval de ce mandataire avant de poser. Mais il y a également des mandats où expressément il est contenu dans l'acte de mandat que le mandataire peut opérer un acte de décharge, un acte de vente sans préalablement recevoir l'autorisation de ses mandants. Si nous revenons dans le cadre des députés, j'avais dit que le député a un mandat et son mandat n'est pas un mandat impératif, contrairement au cas de mandataire de vendeur de terrain dont il donnait l'exemple.
D'accord, merci.
Le député n'est pas tenu, la loi ne le dit pas, de consulter ceux qui l'ont élu avant de venir voter un texte à l'Assemblée nationale.
D'accord, merci beaucoup.
Donc, c'est la différence fondamentale.
D'accord, merci beaucoup, monsieur le député. Nous sommes presque à la fin de cette émission parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, même sur notre numéro WhatsApp. Il y a beaucoup qui ont posé des questions et peut-être que nous allons vous inviter de nouveau pour parler même d'ailleurs de tout cela. Oui, Ambroise, oui, on est à la fin.
Oui, pour Abdel, lui-même, il m'a manqué de respect. Je voudrais lui rappeler ça. Mais je dis que nous sommes tous dans la défense de l'intérêt général. Hein. Donc, personne ne manque de respect à personne ici. Ça, c'est un. De deux, monsieur le député parlait de révision qui emporte la substance d'un test. Quand la révision d'un test emporte la substance du test, il n'y a plus de révision. C'est le changement. C'est ça.
D'accord. Et là, on est à la fin.
Il y a beaucoup de sujets dont on aimerait débattre aussi. Malheureusement, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps d'antenne aujourd'hui. La route Lomé Saint-Cassé, la nationale numéro 1. Si on doit interdire aux compagnies de transport de rouler de nuit, il faut que le ministère des Transports prenne des mesures pour dire aux compagnies de transport de ne pas programmer des voyages de nuit. Il y a trop d'accidents sur cette route, sur la nuit.
D'accord. Oui, Michel ?
Oh, bon appétit à tout le monde.
Merci beaucoup, monsieur le député. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Oui, je voudrais remercier tous ceux-là qui nous ont écoutés. Et je réitère à mon ami Ambroise que dans la logistique, il y a des règles qu'il faut observer. Et je demande à ce qu'il s'approprie. S'il est vraiment intéressé dans les questions de rédaction d'un texte, il faut qu'il s'approprie de la logistique.
D'accord.
La constitution qui a été votée a respecté les règles qui sont prescrites par cette constitution. Elle-même.
Merci beaucoup, monsieur Soklingbe. C'est nous, député, troisième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale et aussi député du Parlement de la CEDEAO. Merci d'être passé alors dans cette émission. Et Michel Yao Tzadza, merci d'être passé dans cette émission. Et là, Mathis Sokbe, merci d'être passé dans cette émission. Ambroise Kondro, merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions et aussi vos questions. Merci à vous. Merci à Michel Toméga qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Vachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Vachteiner, la vie dorée.